un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Avec Karine Leloët. Derrière les barreaux de sa prison, elle s'active. Elle apprend la sténodactylo, elle passe le bac, elle étudie la philosophie, elle se marie. Mais surtout, Albertine Sarrazin se découvre écrivaine. Enfant de l'assistance publique d'Alger et élevée par une famille française, elle passe une bonne partie de sa vie enfermée. Dès 15 ans, dans une maison de correction à Marseille, parce qu'elle est fugueuse et indisciplinée. Et ensuite dans plusieurs centres pénitentiaires, après des années de petits larcins, de prostitution, et surtout un hold-up raté à Paris avec une copine. C'est donc en prison qu'elle écrit des lettres, un journal, des poèmes et deux romans au succès fulgurant pour l'époque, « L'Astragale » et « La Cavale ». Elle y raconte pour la première fois la réalité d'un quartier pour femmes, les compagnes de taux, l'amie ou amante, les gardiens détestables ou sympathiques. L'écriture, dira-t-elle plus tard lors d'une interview, c'est un passe-peine, un moyen de me survivre uniquement. Le reste, le fric, la gloriole, c'est accessoire. Comme elle ou Jean Genet, Khaled Miloudi est un détenu miraculé, un ex-prisonnier sauvé par l'écriture. Il se raconte au micro de Leïla Djitli.
Je m'appelle Khaled Miloudi, j'ai 62 ans. Je viens d'effectuer 22 ans d'incarcération et je me considère aujourd'hui comme un miraculé. Et j'ai le sentiment profond que ma vie a commencé le 5 janvier 2021. J'étais incarcéré pour des vols à marmée, donc pour deux vols à marmée, pour deux braquages et un échange de coups de feu avec la police. Donc des faits extrêmement graves qui m'ont valu 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté. J'ai compris que tout venait de l'enfance et de cette première peine de prison en 79, après un service militaire fraîchement effectué. Suite à une bagarre, j'ai été condamné à un an de prison ferme. J'ai fait appel de cette décision et j'ai été condamné à 18 mois et je me suis retrouvé à Fleury-Mérogis. J'étais en carence affective, désociabilisé, déscolarisé, et ces anciens m'ont pris sous leurs ailes. J'avais le sentiment profond d'avoir trouvé une famille. À l'intérieur de la prison, ils m'ont aidé à continuer, puisque j'avais pas de parloir, personne ne venait me voir, j'avais caché à ma famille que j'étais incarcéré. J'avais trop honte de leur dire. Et ils se sont occupés de moi pendant cette détention. Ils m'ont tout de suite reconnu comme l'un des leurs par rapport à ce côté sportif que j'avais. J'étais boxeur, donc c'est moi qui les entraînais aussi. Et le fait d'être reconnu par des gens qui me regardaient, je crois que c'est ce que je recherchais inconsciemment, puisque voilà, avec mon père, j'ai une relation extrêmement difficile. Et eux, ils avaient à peu près une quarantaine d'années, donc c'était des quadragénaires qui avaient pris des grosses peines. Certains venaient de finir des grosses peines, d'autres allaient commencer une grosse peine. Et ils étaient aux petits soins avec moi, je crois que c'est ce qui m'a poussé aussi vers eux, c'est cette gentillesse, cette fraternité aussi, hein, parce qu'il y avait aussi beaucoup de fraternité, de solidarité. Et je crois que tous ces éléments ont fait qu'en sortant, voilà, je n'avais qu'un désir, c'était les retrouver. Alors quand je suis sorti, c'est passé d'abord quelques mois avant que je les retrouve, puisque j'avais la chance d'entretenir une correspondance épistolaire avec une prénommée Brigitte. Donc quand je suis sorti, je suis allé honorer mon premier rendez-vous à Lan. Étrangement, elle habitait rue des Mauvais Garçons. Donc quand je lui ai écrit pour la première fois aux 4 rue des Mauvais Garçons, je me suis dit bon, je crois que c'est que ça me poursuit. Et donc on a passé 2-3 mois comme ça à vivre l'un collé à l'autre comme les amoureux de Péné. Et puis j'ai repris le chemin de la salle de boxe et puis j'ai rejoint ce bar où je retrouvais mes anciens co-détenus qui étaient sortis, certains avant moi, certains un petit peu après. Et à partir de là, après un repas copieux, bien arrosé, on s'est retrouvés dans un bar, dans l'arrière-salle d'un bar. Et puis ils m'ont proposé un casse.
Vous n'avez pas hésité ?
Non, quelque part, j'étais enfermé, je l'ai su plus tard, j'étais un petit peu enfermé dans une forme de spirale. J'étais libre physiquement, mais j'étais toujours enfermé. Et l'appât du gain aussi, le besoin d'argent, je voulais aussi faire des cadeaux à Brigitte qui avait assuré l'intendance pendant quelques mois. Et puis quand on allait faire les boutiques comme ça, à chaque fois je la voyais avec des étoiles dans les yeux devant telle robe, devant telle paire de chaussures. Et alors ça n'excuse rien, hein, ouais. Mais voilà, ce côté galant, ce côté gentleman m'a aussi poussé à aller commettre ce casse pour ben voilà, pour lui renvoyer l'ascenseur aussi. C'était pas trop pour moi, parce que à chaque fois que j'ai eu de l'argent, je l'ai dilapidé, hein. Donc j'étais pas quelqu'un qui amassait son argent. Voilà, l'argent, ça restait quand même du papier pour moi. Je peux dire que voilà, je me suis épanoui dans cette vie d'aventurier, de braquage, avec des armes à la maison, avec des faux papiers, avec des voitures volées. J'étais pris dans un cycle comme ça. Alors j'étais pas dans le fantasme ni dans le rêve. C'était pas l'adrénaline qui me poussait comme certains. C'était vraiment le besoin et à tort, bien sûr, inconsciemment, je pensais vraiment, j'avais vraiment le sentiment profond que j'avais déjà toutes les dispositions pour l'art de la guerre. Par rapport justement à mon papa, qui était militaire de carrière, quand il partait, je me rappelle très tôt, à l'âge de 7-8 ans déjà, il avait une caisse métallique qu'il mettait sous le lit, fermée avec un cadenas. Donc je savais où étaient cachées les clés, et quand il était absent, j'allais récupérer les clés, j'ouvrais la caisse, et je sortais des armes. Et donc je jouais, mes grands frères étaient pris de panique, ma mère aussi, parce que je m'étais déjà familiarisé avec les armes. Et bien sûr, mon père aussi nous faisait des instructions au maniement des armes. Il nous apprenait même les yeux bondés, un peu comme dans les films. Sauf que c'était la réalité, il nous apprenait à démonter et à remonter une arme les yeux fermés, autour de la table, les grands frères, moi. On avait aussi droit à des travaux pratiques, comment désarmer un homme avec une arme blanche. Et j'étais doué, j'étais le plus téméraire à ses yeux, donc souvent je... Son cri fort, puissant, résonne encore dans ma tête, contre les murs de notre F5, quand il était pris d'un fou rire par rapport à mon courage, à ma témérité. Je crois que tous les coups qu'il m'a portés m'ont endurci, et je crois que quand je parle de prédisposition pour l'art de la guerre, c'est aussi ça, quoi. C'était une violence inouïe, c'était une violence aveugle, c'était une violence qui aurait pu me coûter la vie à chaque coup, ma maman aussi. J'étais le seul de mes frères à m'interposer entre elle et mon père. Donc à chaque fois, j'étais aussi puni et frappé par rapport à ce geste. Je crois comme ils m'enfermaient des fois 3 mois dans un KGB, dans les garages, j'étais aussi préparé à la solitude, étonnamment. À 12 ans, à 13 ans, me retrouver seul dans un KGB, 4 murs, un sommier, un bol d'eau et un pain sec. Je crois que ces mois passés, ces vacances passées dans ces endroits lugubres, m'ont aussi forgé ce mental. Et quelque part, quand je me suis retrouvé à Fleury, les jeunes de mon âge se coupaient les veines, frappaient à la porte, demandaient un peu de l'aide, et parce qu'ils voulaient être en compagnie de quelqu'un. Mais moi, je pouvais vivre seul déjà à cet âge-là. J'avais déjà connu très tôt la solitude. Et bien sûr, le sport a été l'exutoire, puisque très tôt, j'ai commencé à faire du sport, à boxer contre les murs, jusqu'à avoir les poings en sang. Je crois que tous ces paramètres ont fait que j'ai développé des instincts de survie au-dessus de la moyenne. Par rapport à l'enfant que j'étais, à l'adolescent que j'étais, et après au jeune homme que j'étais. Et j'ai pardonné à mon père, et j'ai pas reproduit sa violence envers mes enfants, envers mes proches. La non-enfance que j'ai eue, même encore aujourd'hui, à 62 ans, je dis que j'ai pas eu d'enfance. Les souvenirs qui me reviennent, que j'ai pu coucher sur le papier, c'est des moments très durs, très forts. Bien sûr, il y a eu quelques pépites comme ça avec ma mère, des moments de tendresse comme ça, sur le palier de la porte, mais... Très bref, très court, donc il est resté beaucoup plus de choses sombres. J'étais arrêté après le braquage d'un fourgon blindé en 1994, le 6 décembre 1994 exactement. J'étais recherché depuis 4 ans, puisque je suis resté presque 4 ans en cavale. J'étais recherché pour le braquage d'une banque à Lille. J'étais incarcéré. Au bout de 6 ans et demi, j'étais relâché, après avoir purgé ma peine de 8 ans pour le braquage de la banque. Et malheureusement, à cette époque-là, moi je pensais payer ma dette pour les deux braquages, pour celui de la banque et celui du fourgon blindé. Il y a eu un vice de forme, un de mes co-inculpés a fait un mémoire, la cour d'appel de Paris l'a relâché, et du coup mon juge d'instruction était obligé de me remettre en liberté provisoire, alors que moi j'aurais voulu payer, et je pense que ça a été un tournant aussi, parce que les 6 ans que j'avais effectués étaient confusionnables avec la peine que je devais recevoir pour le braquage du fourgon blindé. Je suis sorti, j'étais assigné à résidence à Bourges. Ma femme, la maman de mes jumeaux, habitait là-bas. Donc, quand j'étais incarcéré, je pouvais voir mes enfants. Et quand j'étais remis en liberté provisoire, je ne pouvais plus voir mes enfants.
Eh oui.
parce que je pouvais plus monter à Paris voir mes premiers garçons et ma fille. J'ai quand même pris le risque d'aller les voir, parce que c'était plus fort que moi, il fallait que j'aille les voir, donc en cachette j'allais les voir. Et j'ai cherché du boulot, j'ai essayé, et j'ai pas trouvé de travail, les dettes s'accumulaient, la mère de mes jumeaux avait accumulé pas mal de dettes dont elle m'avait caché quand j'étais incarcéré pour pas me casser le moral. Et du coup, les huissiers venaient se bousculer à la porte. Donc pendant 3 ans et demi, j'ai jamais pu me poser, j'ai jamais pu être heureux. Et même autour de moi, ma femme, dans des moments de joie, des moments de fête, de famille, d'affection, il y avait cette épée de Damoclès, il va retourner en prison 15 ou 20 ans. Donc je me suis dit, je suis au bout du rouleau, c'est comme un burn-out, j'étais sur le fil du rasoir. J'ai retrouvé 2 connaissances qui m'ont proposé un braquage. Et la mort dans l'âme, je le dis vraiment sincèrement, autant au début, voilà, j'y allais avec enthousiasme. La mort dans l'âme, je suis remonté sur ce braquage, qui s'est mal passé puisqu'il y a eu 2 fusillades. J'ai tiré sur la police. Donc, voilà, mon déterminisme aurait pu me pousser à tuer ou à blesser quelqu'un. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessé ni de mort. Je me suis fait percuter par les 2 voitures de police, j'étais en moto. Quand je suis tombé au bord du caniveau, j'avais la moitié du corps sur le trottoir, l'autre partie sur le caniveau. Et là, j'ai vu en quelques millièmes de seconde, j'ai vu ma vie défiler comme en kaléidoscope. Et là, je me suis dit, c'est la fin. C'est la fin de ma vie. Mais étrangement, j'étais soulagé. Et à partir de là, ça a été l'enfer. J'étais placé tout de suite à l'isolement. En 2003, quand j'ai récidivé, quand j'ai commis ce braquage de la joaillerie avec la fusillade et l'échange de coups de feu avec la police, je devais comparaître aux assises pour 2 affaires. Pour le fourgon blindé pour lequel j'avais été relâché, et pour la fusillade et l'échange de coups de feu avec la police, et bien sûr le braquage de la joaillerie. Et j'ai été condamné en 2007. Le 13 mars 2007, j'ai été condamné pour le fourgon blindé. Les faits avaient été commis en 1994, donc j'ai été jugé 13 ans après. J'étais condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Bobigny. Et là, c'était la première fois que j'entendais M. Miloudi Khaled, la cour d'assises, à l'unanimité des jurés, vous condamne à 20 ans de réclusion criminelle. J'ai senti mes jambes se dérober. J'ai vraiment pris un coup de massue. Mais je savais que c'était que le début d'un long et âpre chemin. Puisque un mois après, j'étais condamné par la cour d'assises de Rouen, le 30 juin 2007, à 25 ans de réclusion criminelle pour le braquage de la joaillerie et l'échange de coups de feu. Et là, j'étais à 45 ans de réclusion criminelle à l'isolement. Et là, je me suis dit, je ne sortirai plus jamais de prison. J'étais livré à moi-même, j'étais vraiment au fond du trou, dans les abysses de l'enfer. Et là, j'ai préparé une corde. Je voulais me suicider. J'avais tressé une corde que je cachais régulièrement. La corde que j'avais tressée avec des bouts de drap que j'avais découpés en lamelles. La journée, je la détressais, puisque j'avais des fouilles. Et le soir, dès que la porte se fermait, je la retressais. Et à chaque fois que je la tressais, je me préparais psychologiquement. J'essayais de me préparer psychologiquement à partir de l'autre côté, à mourir.
À me pendre.
Oui, à me pendre. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, je nomme ça à tort peut-être, mais comme une révolution intérieure, il s'est passé quelque chose, comme un bruit de l'âme, comme une voix intérieure, qui m'a poussé, qui m'a mu, qui m'a guidé. Donc il y avait cette corde qui était en cercle à côté de ce tabouret, et j'avais un petit calepin à rayures qui était posé sur un coin de table à l'isolement. Et entre les deux, voilà, je me pends, je me pends pas, et je crois que, j'en suis persuadé, que mes enfants pesaient lourd dans la balance, parce que je me suis vu mort. J'ai imaginé mes enfants venir à mon enterrement. Je les ai vus défiler, donc vraiment, sincèrement, je les ai vus défiler. J'ai vu leurs sanglots. Je me suis effondré à ce moment-là, puisque moi aussi j'étais en sanglots, je pleurais énormément. Plus je pleurais, plus petit à petit mes larmes me rafraîchissaient, me réveillaient. Je peux dire que c'est mes propres larmes qui m'ont réveillé, qui m'ont sorti de cette torpeur dans laquelle j'étais enfermé. Et je me suis dit non. Et je me suis jeté en larmes sur ce petit calepin et j'ai commencé à écrire 3 mots en arabe, bien sûr en phonétique. Nebrekum, nebrekum, nmotalekum. Je vous aime, je vous aime, je me meurs sans vous. Il s'est passé quelque chose en moi et j'ai pris ma feuille et un poème qui est sorti. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Rien ne m'a manqué autant que vous, mes enfants, malgré mes errements. Nos meilleurs moments sont restés comme des monuments. Je vous aime, je vous aime. Et c'est auprès de vous, mes bouts de laine. Et puis... J'ai un trou sur ce poème, mais le lendemain, le poème de mon père. La guerre, père, je la hais. Au retour de l'école, on voulait aller jouer. Simplement jouer. Lorsque tu nous retenais pour nous raconter, avec un air entier, ton accent orané, des batailles sanglantes avec ses morts et ses blessés. Alors, nos pauvres âmes tremblantes, erraient dans une tranchée où la tienne s'était retranchée. Dans la nuit, sans bruit, tu imaginais sans mascarade de réelles embuscades. La guerre était finie, mais elle t'avait désuni, ne te laissant que l'ennui et d'imaginaires ennemis. À la maison, il n'y avait que maman, et puis nous, tes enfants. Mais la guerre, avec sa funeste oraison, en déversant son pus mêlé à son jus, t'a fait perdre la raison. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus, car c'est elle qui guide tes pas. La guerre, père, je la hais, et toi, je t'aime. Ce poème est sorti comme ça, comme celui pour mes enfants, et puis après un deuxième, puis après un troisième. Sans chercher les mots, je crois que les mots m'ont permis à ce moment-là, ma boîte à mots, puisque j'avais lu quand même beaucoup, mes mots m'ont permis d'extraire les bleus sous ma peau. Et je crois aussi de mieux comprendre les autres, mon père, le monde, moi-même. Que j'avais cette pudeur aussi de jamais parler de mes souffrances, de mes blessures, de mes failles, de ma vulnérabilité, de mon hypersensibilité aussi qui s'est développée justement. Et puis le fait de l'accepter, le fait de me dire voilà, je suis capable de pleurer, de dire que moi aussi j'ai une sensibilité, que moi aussi je suis touché, que moi aussi je craque, je pleure, je crois que ça m'a permis de me connaître. Et ça m'a fait du bien, je me suis apaisé. J'étais plus en colère, j'étais plus dans le ressentiment, j'étais plus dans la violence, j'étais plus dans la haine, parce que la haine m'a porté quand même un peu aussi.
C'est écrire ou mourir, mais c'est aussi lire ou mourir. C'est les deux, en fait. C'est la lecture vous a sauvé. Finalement, c'est une chance inouïe d'avoir aimé lire, non ?
Oui. Alors, lire, écrire et écrire aussi ont été mes plus fidèles alliés, mes plus belles et mes plus réussies évasions. Lire et écrire en prison, c'est survivre et c'est même continuer d'exister. Souvent dans cette cellule, je me sentais, après avoir découvert l'écriture et après de nombreuses lectures, plus libre dans cette cellule que certaines personnes qui étaient dehors. Et après aussi, j'ai eu besoin de mettre ma plume au service de mes codétenus. Que ça soit pour écrire un poème pour leur copine, que ça soit pour une réconciliation avec leur femme, que ça soit pour préparer un mémoire, puisque j'avais quand même quelques notions de droit aussi. Et je me suis rendu compte que la plume aussi était un pouvoir. Et je me sentais plus utile. Et on venait me solliciter de plus en plus. Donc voilà, j'avais trouvé ma place, j'existais. Et c'est vrai que j'ai lutté aussi. J'ai lutté contre mes démons, j'ai lutté contre mes propres monstres. Parce que c'est vrai que le comportement d'un surveillant... qui faisait preuve de racisme, qui me discriminait, ces transferts, ces rotations sécuritaires à rendre fou, ce quotidien où l'on bafoue vos droits les plus élémentaires, c'est-à-dire j'étais détenu, j'acceptais ma peine, j'étais prêt à faire un travail sur moi, mais on faisait tout, quand j'ai repris une licence d'histoire, avant de faire une licence de littérature et de théâtre, on m'a transféré alors que ça se passait très bien, que j'avais pas de problème d'évasion, que j'avais pas de problème de comportement, mais justement parce que j'étais devenu calme, parce que je lisais, parce que j'écrivais, on venait, on me capturait, puisque c'est à 6h du matin qu'on arrivait, on me capturait, hein, vraiment. 6h du matin, c'est les cagoulés qui rentraient dans ma cellule. Parfois, j'étais en short torse nu, on me mettait une couverture sur moi. On me faisait faire 1000 km dans le 806 avec les cagoulés, donc bien sûr avec l'armada de voitures de police et les sirènes, puisque j'étais classé DPS, détenu particulièrement signalé. Ça tombait comme ça, j'ai à peu près 22, 23 transferts. Dans toutes les prisons de France et de Navarre, j'ai fait toutes les centrales de haute sécurité, j'ai fait toutes les maisons d'arrêt, j'ai fait tous les QI de France. Et tout a changé quand j'ai eu cette rencontre avec les livres. Je voulais même le faire toucher du doigt aux autres quand ils m'ont dit « Mais d'où vient cette passion pour la littérature ?» Alors que je pensais pas l'avoir en moi. J'ai arrêté l'école, j'avais 13 ans, donc j'avais à peine le niveau 3e. Sur ma première peine à Fleury, j'ai passé mon BDC, mon brevet des collèges. Et après, j'ai fait un an de licence d'histoire. Je vous l'ai dit, j'étais transféré, j'ai pas pu passer ma deuxième année. Mais après, si, j'ai pu reprendre mon cursus universitaire. J'ai passé une licence de littérature et d'abord un DAU, qui correspond à un bac L. Et après, j'ai fait une licence de littérature et de théâtre. J'ai obtenu une mention, donc voilà. J'ai réussi à monter un atelier de théâtre à la centrale de Lannemezan, avec des détenus au demeurant réfractaires à toute forme d'art. Je ne voulais pas prendre des co-détenus qui avaient l'habitude de participer aux ateliers. Et il en est sorti quelque chose de beau. Idem pour l'atelier d'écriture et de poésie que j'ai pu animer le samedi matin dans le sanctuaire d'une bibliothèque. Il en est sorti quelque chose de beau, des co-détenus qui n'avaient jamais écrit, qui n'avaient jamais écrit sur eux, qui n'avaient jamais participé à une activité. Ils nous ont donné quelque chose d'intime. Et j'ai eu le prix national Blaise Cendrars en 2016 sur le thème « Guerre et paix ». Le poème est sorti à 3h du matin, je me suis réveillé. Incroyable, parce que j'étais aussi poursuivi par les mots quand je disais ça à mes collègues. Ils se moquaient de moi au début en disant « Mais ils l'ont eu, Khaled, il est devenu fou ». Je leur disais « Mais je suis poursuivi par les mots, je me lève le matin ». Et donc je mettais un cahier à côté de moi parce que je me levais à n'importe quelle heure. Il fallait que tout de suite que je couche le poème qui m'était venu ou que je changeais un mot dans un de mes poèmes que j'avais écrit. Mais ça se faisait comme ça, naturellement. Mais petit à petit, j'ai vu que leur regard avait changé sur moi. Je ressentais qu'ils m'enviaient parce que quand ils venaient me chercher pour une activité ou pour boire un café, je leur disais non, je suis en train d'écrire, je reste... Moi, des fois, à 15h de l'après-midi, on avait promenade jusqu'à 19h en centrale, 19h30. À 15h, je disais aux surveillants, vous passez pas pour le repas, vous pouvez fermer, mettre les verrous. Même les surveillants étaient surpris, alors que je pouvais... Oui, mais moi, j'avais besoin d'être dans cette bulle, quoi. C'était une bulle d'oxygène, ma cellule, comme une fenêtre vers la liberté. Et je voulais faire toucher du doigt au travers d'un poème. Comment, parce que souvent c'était une question qui revenait, mais comment vous êtes découvert cette passion dans ce 9 mètres carrés, dans cette prison où vous étiez en train de souffrir, où vous étiez prêt à vous suicider? Et j'ai appelé ce poème « La tournée des mots de l'ombre ». Dans une coursive au parquet ciré, un vieux chariot grince, croule, roule, et puis s'arrête comme soulagé devant ma porte. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Ni un pont, ni un vulgaire jour férié, non, mieux que ça. C'est le marché aux livres, c'est la foire aux mots, c'est la tournée des mots de l'ombre, c'est la littérature et la poésie qui déboulent, qui vont et qui viennent de cellule en cellule, avec leurs livres aux pages jaunies, tachées, cornées, froissées, trop souvent arrachées, dont plus personne ne veut et qu'on a mis au rebut. Des livres pour nous les hommes de l'ombre, des livres pour faire entrer la vie et exiler la haine, des livres pour résister le jour et voyager la nuit, des livres pour récolter des mots et raconter son moi, des livres pour fissurer les murs et faire passer l'amour, des livres pour rencontrer les autres et se trouver soi-même, des livres pour découvrir le monde et lui offrir sa pomme, des livres pour animer ses souvenirs, le temps, et mieux penser demain, des livres pour s'accrocher, se raccrocher à la nature humaine et avancer. Alors, quelque part, c'est ce chariot à l'isolement. On avait le droit à 3 livres par semaine.
Qu'on entend dans les couloirs.
Oui, qu'on entend dans les couloirs, et je prêtais l'oreille. J'espérais que mes co-détenus ne prennent pas de livres. Alors, il n'y avait aucun égoïsme, mais je me disais que, comme j'étais en bout de cellule, en bout d'aile, je me retrouvais souvent avec toutes les biographies de Napoléon, par Max Gallo. J'ai rien contre, mais pour voyager, à l'isolement, il y avait beaucoup mieux. Et donc, quand j'avais le choix, quand je tombais sur des livres, des romans, je voyageais... Je relisais même les livres, parfois. Je les relisais une fois ou deux fois. Ou des fois, quand j'arrivais presque à la fin, je lisais une page, j'arrêtais, parce qu'il fallait que je garde ces aventures. C'était des petites évasions. Voilà, je tournais les pages tranquillement. Il y avait quelque chose dans cette façon de tourner les pages et de redécouvrir quelque chose. Et à chaque page, comme un jaillissement, quoi. un jaillissement de la vie qui arrivait dans cette cellule, comme une fenêtre vers la liberté.
Vous êtes sorti de votre souffrance.
De mon chagrin et je crois aussi de mes suffisances, de mes failles, de ma vulnérabilité, de mes mauvais choix, de cette chape de plomb comme ça que j'avais mis sur ma propre vie. Tout a éclaté, quoi. C'est comme une révolution intérieure, quoi. Et quand je suis sorti le 5 janvier 2021, je vous assure, Leïla, j'avais vraiment le sentiment profond ce jour-là. Mes pieds ne touchaient pas le sol. Mes premiers pas, j'avais l'impression que j'étais en lévitation, que ma vie commençait. C'est fou. À mon âge, quoi. À 60 ans, ma vie commençait. Le ciel m'a paru plus majestueux. Les gens me souriaient. Même si, bien sûr, dans les transports, j'avais l'impression d'être un extraterrestre. Les gens étaient penchés sur le téléphone, qui était un peu le prolongement de leurs mains. Les ordinateurs, plus personne ne se regardait. Et aujourd'hui, tout a changé. Et puis aussi, quand j'allais dans les restaurants, ça me faisait drôle. Les gens ne se parlaient plus. Chacun était sur le portable. Et je les voyais prendre à tour de bras les photos des plats. J'ai trouvé ça tellement incongru, tellement petit même, quelque part. Ça faisait pour moi comme une étroitesse d'esprit, quoi. Voilà, j'étais vraiment dans un autre monde, quoi, quelque part. J'étais comme sur un coussin d'air. J'avais le visage épanoui. Et j'étais comme un apesanteur, libéré de tout. Et comme si derrière moi, j'avais laissé... comme si j'avais changé de peau, que j'avais mué, et que je voyais aussi dans un recoin de cette cellule que j'ai quittée, ma mue. Comme une espèce de nouveau-né, quelque part, mais à 60 ans, quoi. Quelque part. Au creux de sa main, quand j'avais 7 ans, je flânais avec mon père dans les avenues de la Comédie humaine avec le sou du petit salaire pour dénicher la bonne affaire. De peur de me perdre, avant de fendre la foule dense, il me prenait la main dans sa main, un étau. Derrière son dos, large et massif, tiré, traîné et ballotté, je volais léger au-dessus des pavés, comme un monarque sous le vent. J'en profitais pour caresser, de mes bouts de doigts et de ma paume lisse, la sienne, rugueuse, sûre à l'ouvrage, pour suivre les lignes et les méandres, m'arrêtant l'encre jetée à chaque delta, à chaque presqu'île de ses veines, jusqu'à sentir abattre son pouls. En cet instant de grâce, lié, uni, comme jamais, j'aurais aimé habiter et vivre au creux de sa main, au creux de cette main qui protège et qui parle, de cette main qui hier soir encore frappée. Peut-être mon père avait-il senti lui aussi les 1000 points de suture sur la paume de mon âme. Sur le retour, il avait plu. Il m'aidait en me tirant vers le ciel à enjamber de grands troupeaux de nuages d'eau.
C'était une émission de Leïla Djitli, réalisée par Clémence Gross et mixée par Nicolas Depagraf. Merci à Khaled Miloudi qui signe Les Couleurs de l'Ombre aux éditions des Équateurs. Céline Paris, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Flavie Champion, notre stagiaire.
Il était une fois une princesse qui devint amoureuse.
France Culture invite la féministe, réalisatrice et autrice Ovidie à déconstruire les codes amoureux. Pour LSD, la série documentaire, épaulée par son acolyte Tancred Ramonet, elle tente de définir les multiples représentations romantiques qui envahissent notre époque.
Je me suis rendu compte que les hommes qui me plaisaient, c'était tous issus de la classe bourgeoise. Et je me suis dit, merde!
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Un podcast d'Ovidie, réalisé par Julie Béressy sur franceculture.fr et l'appli Radio France.